chronique de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour à tous, bonjour Monsieur de la Rosière.
Bonjour.
Pour votre chronique, vous allez évidemment, je suppose, rebondir, comme on dit dans la presse maintenant, sur les propos et les réformes annoncées par le Président de la République hier soir, 29 janvier 2012, et notamment sur la TVA sociale. Alors de quoi s'agit-il, si vous pouvez nous résumer ce problème de la TVA sociale ?
Oui, alors pour bien comprendre de quoi il s'agit, je crois qu'il faut rappeler quelques faits élémentaires. Le premier, c'est que notre pays connaît un déficit commercial, c'est-à-dire un écart entre les importations qui dépasse de beaucoup les exportations. Et ce déficit est très élevé et il s'aggrave d'année en année. Donc c'est une donnée qui est importante et qui fait que notre pays est donc tributaire d'importations de capitaux, de flux de capitaux pour financer notre déficit. Il y a en effet un lien entre le déficit budgétaire, déficit des finances publiques d'une part, et d'autre part le déficit de la balance des paiements. Le déficit de la balance des paiements, c'est donc l'excès, si vous voulez, des importations par rapport aux exportations, et c'est aussi, en termes économiques, la traduction du fait qu'il n'y a pas assez d'épargne intérieure pour financer les investissements, et les investissements en particulier générateurs de production à l'exportation. Alors, ce déséquilibre, qui est quelque chose de relativement nouveau en France, nous avions atteint des niveaux d'équilibre il y a quelques années. Ce déséquilibre croissant traduit une perte de compétitivité de notre pays, et en particulier de notre industrie, par rapport à l'Allemagne en particulier. Cette perte de compétitivité, elle est d'origine diverse. C'est assez difficile d'en analyser toutes les causes. Mais je constate que, d'après les dernières publications de statistiques de la Banque Centrale Européenne, notre perte de compétitivité mesurée, comme ils le font, atteint 4,5% depuis une dizaine d'années. Et que ce chiffre de 4,5% s'est d'ailleurs détérioré pour arriver à 4,5% de 1,5% sur la seule dernière année. Je rappelle que de 1996 à 2000, les niveaux de compétitivité entre l'Allemagne et la France étaient égaux. Donc c'est un phénomène qui n'est pas inscrit dans le marbre. Nous pouvons être aussi compétitifs que les Allemands, mais nous ne le sommes pas.
Et pourquoi ?
Notre dégradation est de plus en plus forte. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes moins compétitifs que nos voisins allemands ? Je crois qu'on peut dire que la France a privilégié depuis quelques années une croissance centrée sur la consommation et non pas sur l'exportation.
Ou les investissements, oui.
Ou les investissements. Et j'ai pris les chiffres entre 2003 et 2012, sur une dizaine d'années, le taux de croissance moyen annuel de la consommation privée en France a été de 1,5 point par an. En Allemagne, il est en France de 1,8, donc presque 2%. Les coûts de main-d'œuvre, ce qu'on appelle les coûts unitaires de main-d'œuvre, augmentent plus vite en France qu'en Allemagne. Le niveau des salaires est encore en France inférieur à celui de nos voisins allemands, mais l'écart se resserre puisque le coût unitaire de main-d'œuvre tend à augmenter plus vite en France qu'en Allemagne.
Mais on peut comparer, par exemple, le prix horaire.
Oui, on peut comparer. Et sur les 10 dernières années, le coût unitaire de main-d'œuvre a augmenté en Allemagne de 0,4% par an en moyenne, et chez nous, c'est un peu plus de 2%. Alors, dans ces coûts de main-d'œuvre, il y a les salaires, qui sont plutôt moins élevés en France qu'en Allemagne. Donc c'est plutôt le rattrapage, si je puis dire, l'évolution des salaires qui est en cause plus que le niveau. Mais il y a la charge des prélèvements sociaux sur le coût du travail.
Qui est beaucoup plus élevé en France.
Beaucoup plus élevé, à peu près deux fois plus élevé qu'en Allemagne. Et là, nous sommes au cœur du débat dont vous venez de dire que le président de la République, sur lequel il a centré une partie de son propos hier. En gros, pour simplifier un peu les données, je ne suis pas sûr des chiffres exacts, mais je suis sûr de leur ordre de grandeur. Quand on paye 100 de salaire en France, on rajoute environ 60 de charges sociales. En Allemagne, on rajoute environ 30.
Et cet écart justifie le problème.
Cet écart, il fait que quand vous avez 100 de salaire net, si vous voulez, que vous payez à un ouvrier, lui-même, cet ouvrier, contribue aux prélèvements sociaux à hauteur d'un certain montant, qui est de l'ordre de 20, et les entreprises contribuent au financement des charges sociales, que ce soit la vieillesse, la santé ou les allocations familiales, à hauteur de 40. Et c'est ces 40 et ces 20 qui font 60, qui se comparent aux 30 Allemands. Alors, il faut bien comprendre que quand vous avez 160 d'un côté, cas de la France, et 130 cas de l'Allemagne, vous avez donc une différence de 30 sur, disons, 130, le chiffre allemand, ce qui fait à peu près 20%. Et 20% de plus, dans une économie concurrentielle, mondialisée, c'est la différence entre exporter ou pas exporter.
Et cette surcharge fait finalement que le problème de la compétitivité est mis
absolument.
En péril.
Et quand vous considérez qu'à peu près les trois quarts d'un produit exporté représente des charges de main-d'œuvre, c'est très variable selon les industries. Il y a des industries où c'est beaucoup moins. Mais en moyenne, c'est à peu près les trois quarts. Vous voyez que si ces trois quarts-là sont grevés d'un handicap, disons, de l'ordre de 20% ou 30% de plus que celui dont souffrent les produits allemands, vous arrivez à un problème de compétitivité qui est massif, qui est déterminant.
Alors, et pourtant, le modèle social français n'est-il pas meilleur que le... Parce qu'il y a les chiffres, mais le modèle social français, faut-il s'aligner à tout prix sur le modèle allemand?
Je ne dirais pas qu'il faut s'aligner sur le modèle allemand. Je dirais que le modèle français, qui comporte beaucoup d'avantages, notamment en ce qui concerne les allocations santé, maladie, est un modèle qu'il faut financer. Alors la question, ce n'est pas celle que vous posez, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que nous nous alignions sur le modèle allemand? La vraie question, c'est est-ce qu'il est sage, est-ce qu'il est raisonnable de faire en sorte que les cotisations sociales soient essentiellement celle qui pèse sur la force de travail et qui est mobilisée par les entreprises. Je crois que la réponse à cette question est non. Car si nos voisins ont des systèmes dans lesquels ils ont financé autrement leur modèle social, je crois que si nous nous obstinons à vouloir faire financer notre modèle social par le travail en entreprise, et presque exclusivement le travail en entreprise, nous sommes en train de plomber notre système productif et notre système d'exportation. S'il n'y avait pas ce phénomène de l'aggravation de notre déficit commercial, on pourrait être plus
confortable
et moins axé sur ces questions. Mais avec un chômage comme celui que nous connaissons et qui est autour de 10% de la population active, avec une balance commerciale de plus en plus et très gravement déséquilibrée, je ne crois pas qu'on puisse considérer comme sans intérêt le problème de la méthode du financement des charges sociales. La faire peser, comme nous le faisons, avec cette accentuation et cette force que j'ai indiquée sur le travail en entreprise, me paraît extrêmement dangereux, et pour nos exportations, et pour notre emploi. Parce que qui dit libération des charges et donc augmentation de la capacité pour les entreprises de faire de la production exportable, dit
création
davantage d'emplois.
Et oui.
Et donc, je pense qu'il faut que nous arrivions à faire le lien entre la création d'emplois et l'allègement des charges sociales, dont je viens de dire que c'est un élément très important dans la différence de compétitivité avec les Allemands. Alors, je vais apporter un bémol à ce que je viens de dire, qui n'enlève pas la valeur de ce que je viens de dire, mais qui complète le propos. Il n'y a pas que les charges sociales qui grèvent et rendent difficilement compétitif notre production. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qui relèvent de la façon dont on organise notre salaire minimum, les effets d'indexation du salaire minimum sur d'autres éléments salariaux, les méthodes de négociation des salaires qui sont faites par branche et qui ne sont pas suffisamment, à mon sens, fragmentées pour tenir compte des capacités de productivité des échelons les plus micro, si vous voulez, de notre économie. Et il est probable, vous diront les économistes qui sont spécialisés dans ces sujets, que ces facteurs dits de flexibilité des salaires et de l'emploi sont peut-être plus importants encore que l'écart des charges sociales dont j'ai indiqué tout à l'heure l'ampleur. Mais ce n'est pas parce que il y a d'autres éléments qu'il faudra d'ailleurs aussi traiter et qui sont des éléments structurels. Ce n'est pas parce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut négliger celui, je dirais, plus apparent, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, et qui est celui des charges sociales.
Mais alors, supprimer les charges patronales, on a entendu dire que peut-être on allait les supprimer sur les allocations familiales, par exemple. Mais c'est une toute petite mesure, ça, non ?
C'est en effet ce que je comprends de la décision gouvernementale, ou qui est en train de se prendre. Je comprends qu'il s'agit de supprimer des cotisations versées par les employeurs. Je ne parle pas des cotisations versées par les employés qui ne sont pas touchés. Je comprends qu'il s'agit de supprimer les charges patronales sur l'élément familial, allocation familiale, jusqu'à un peu plus de 2 fois le SMIC. Alors, il faut bien comprendre que c'est une mesure, en effet, qui est
très limitée,
qui tend à soulager les entreprises pour les emplois industriels, notamment les emplois qui pourraient être tournés vers l'exportation, parce qu'il s'agit de plus que le SMIC. Et on me dit dans la presse que j'ai lue aujourd'hui que ça représenterait à peu près 5,4% des salaires bruts. Alors évidemment, ce n'est pas du tout la solution de tout le problème de ce que j'ai appelé le handicap par rapport aux Allemands de nos charges sociales. C'est une partie du chemin. Je crois que ça va dans la bonne direction. Ça va permettre aux entreprises qui vont bénéficier de cette suppression des charges familiales de réduire leurs prix et de ce fait d'être plus compétitives.
Oui.
Je ne pense pas que ça résoudra la totalité du problème parce qu'il y a aussi le surcoût, si vous voulez, de ce que payent les entreprises sur la branche maladie et la branche retraite. Donc c'est un pas dans la bonne direction. Ce n'est pas la solution de tout le problème de la compétitivité française qui, d'ailleurs, comme je l'ai dit, dépasse celui des charges sociales. Alors évidemment, la contrepartie de cette réduction, de cette suppression des charges sur le chapitre allocation familiale, pour une partie assez importante d'ailleurs des personnels employés, puisqu'il s'agit en moyenne de plus de 80%, autour de 80% des gens employés, se traduira par une moins-value de prélèvements sociaux pour la branche famille, qui sera de l'ordre, d'après ce que je comprends, de 13 milliards. Et donc, il y a un report ce manque à percevoir vers, d'une part, la TVA, qui augmenterait dans son taux normal de 1,6%, et d'autre part, une augmentation de 2 points de la CSG sur la rémunération du patrimoine, et en particulier des dividendes. Et ces deux éléments, le premier étant évidemment très majoritaire, ces deux éléments compenseraient le manque à gagner et assureraient donc une neutralité budgétaire de la mesure. Alors l'avantage de faire cela, c'est aussi que ça frappe un peu les importations, puisque les importations verront leur taux augmenter. Et donc on a à la fois une réduction des charges qui pèsent sur
les entreprises
exportatrices et une augmentation des charges qui pèsent sur
les importations.
Donc ça me paraît aller dans la bonne direction. C'est une mesure qui a été prise par nos voisins allemands du temps de M. Schröder, le précédent chancelier, il y a quelques années. Et c'est une mesure qui a contribué, elle n'est pas la seule, comme je l'ai dit, il y avait d'autres aspects, mais c'est une mesure qui a contribué indiscutablement à la compétitivité des produits allemands. Alors, évidemment, il y a d'autres choses. Il y a le fait que nos amis allemands sont très forts en qualité de produits, ils se sont spécialisés sur des niveaux de gamme, si vous voulez, en termes de qualité qui sont très supérieurs. Il y a donc tout un ensemble de choses qui touchent l'innovation, il y a toute la chaîne de production, si vous voulez, qui mérite d'être analysée pour voir comment, en France, nous remettre à un niveau d'exportation comparable à celui des Allemands. Je pense que c'est faisable. Notre écart de compétitivité, dont je vous ai donné une idée au début, n'est pas tel que ceci ne soit pas rattrapable, mais il va falloir que ceci soit au centre du débat public.
En même temps, vous avez l'air optimiste, puisque vous dites qu'on fait un pas dans le bon sens.
Ben oui, puisqu'on va réduire un peu les charges, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous voulez, dans la vie, il faut avancer sur plusieurs fronts, et quand on voit quelque chose qui va dans la bonne direction, il faut
le souligner.
Il faut le souligner, même si on aimerait que ça aille plus loin. Voilà.
Merci Jacques Delarosière. Dans votre prochaine chronique, vous reviendrez sur peut-être cette affaire de 3A et de notation, parce qu'elle nous intéresse aussi. Et puis, nous aborderons d'autres sujets dans d'autres chroniques. Merci et à bientôt.
Merci.